بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الوانجل الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblé de cette assise et que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente ses bienfaits. Et nous sommes dans le chapitre de avec le pilier de la foi en le jour dernier. Fa ma'a rukni al-rabi rukni al-khamis min arkan al-iman al-iman bil yawm al-akhir. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول إيمان بالبعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. متفق عليه، وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يزاجيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسوله. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والأمر الثاني في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء. يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرفك ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Donc il dit rahmatullah alayh concernant la croyance au jour dernier, il dit le jour dernier c'est le jour de la résurrection au cours duquel les gens seront ressuscités pour les comptes et la rétribution. Ce jour est ainsi désigné car il n'y aura plus de jour après ce jour-là, lorsque les gens du paradis s'établiront dans leur demeure et les gens de l'enfer s'établiront dans les leurs. Il dit rahmatullah alayh, la croyance au jour dernier comporte trois points. Le premier point, la croyance en la résurrection lorsqu'on soufflera dans la trompe la deuxième voix. Les gens se tiendront debout. Les gens se tiendront debout devant leur Seigneur, devant le Seigneur de l'univers, pieds nus, corps nus et incirconcis. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. La résurrection est une vérité incontestable, prouvée par le Coran, par la Sunna et le consensus des musulmans. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Et puis, après cela, vous mourrez, et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. » Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « Les gens seront ressuscités le jour de la résurrection, pieds nus et incirconcis. » Les musulmans sont unanimes pour confirmer que ce jour aura lieu sans aucun doute. C'est la suite logique de la perfection des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, et c'est la suite logique des choses et c'est la perfection des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fixé à ses créatures un retour lors duquel il les récompensera pour ce qu'il leur a prescrit par l'intermédiaire de ses messagers alayhi salatu wassalam. Et il est dit dans le verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, dans la traduction approximative du sens du verset, « Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» Et concernant le prophète, alayhi salam, il est dit dans le verset, dans sa traduction approximative du sens, « Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement vers lui, c'est-à-dire le jour de la résurrection. » Deuxièmement, le deuxième point, qui est contenu dans la foi en le jour dernier, la croyance au jugement et à la rétribution. L'individu sera jugé selon ses œuvres et sera rétribué pour cela. Cette croyance est prouvée par le livre et la sunna et le consensus des musulmans. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, c'est vers nous le retour et ensuite nous leur demanderons des comptes. Et il est dit dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens de ce verset, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et ils subiront aucune injustice. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci, au jour de la résurrection, nous placerons les balances justes, nulle âme ne sera lésé en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et selon Abdullah ibn Omar, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, Allah fera approcher de lui le croyant, il le couvrira et lui dira, reconnais-tu avoir commis telle faute? Et ceci va se répéter plusieurs fois. Et le soumis dira, oui Seigneur. Le soumis dira, oui Seigneur. Et quand il aura reconnu toutes ses fautes et toutes ses erreurs, et qu'il s'imagine qu'il est perdu, Allah lui dira, quand tu étais dans ce bas monde, j'ai dissimulé tes fautes, et aujourd'hui je te les pardonne. Quant à l'infidèle et à l'hypocrite, on leur criera devant toutes les créatures. Ces gens-là sont ceux qui ont déblatéré des mensonges sur leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Et il est rapporté aussi authentiquement chez le Bukhari et Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque a l'intention de faire une bonne action et l'exécute, Allah lui inscrit à son compte 10 bonnes actions, et ça peut aller jusqu'à 700 fois et même multiplier dans de plus fortes proportions. Et quiconque a l'intention de faire une mauvaise œuvre, il l'accomplit, Allah lui inscrira une seule mauvaise action. Les musulmans sont unanimes pour confirmer la réalité des comptes et de la rétribution pour les œuvres. C'est la suite logique de la perfection et la sagesse du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah a descendu les livres et envoyé les messagers et a prescrit à ses serviteurs d'accepter le message qu'ils ont apporté et de mettre en application ce qui doit être mis en application et de s'abstenir de ce qui est interdit. Et il a fait obligatoire de combattre ceux qui s'opposent au message, et leur fortune ainsi que leurs femmes sont un butin. S'il n'y avait pas de compte ni de rétribution, tout cela serait vain, et cela ne sied pas au Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés les messagers, et nous interrogerons aussi les messagers. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils avaient fait, car nous n'étions pas absents. وقال رحمه الله والأمر الثالث في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيه أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Donc il dit, rahmatullah alayh, le troisième point contenu dans la croyance en le jour dernier, la croyance au paradis et à l'enfer. Ils sont l'issue finale des créatures, le paradis et la demeure des délices qu'Allah a préparé pour les croyants pieux qui ont cru en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit de croire et qui ont obéi à Allah et à son messager, qui ont accompli la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Dans le paradis, les attend des délices qu'aucun œil n'a vu et aucune oreille n'a entendu parler et qu'aucun cœur n'a imaginé. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense chez Allah sera les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Allah les agrée et ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Telle est la récompense de celui qui craint son souverain, qui craint son Seigneur. Et dans l'autre verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit: aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de leurs œuvres. Et il dit, rahmatullah alayhi, quant à l'enfer, c'est la demeure du châtiment qu'Allah a préparé pour les infidèles, injustes, qui n'ont pas cru en lui et ont désobéi à ses messagers, alayhi salatu wassalam. Là-bas, il y a des châtiments et des tortures qu'aucun esprit n'a jamais imaginées. Il dit, il a cité le verset, rahimahullah ta'ala, dont la traduction approximative nous dit ceci, et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et dans l'autre verset, il dit, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, ou on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages, quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Il dit, rahmatullah alayh, dont il a cité un autre verset dont la traduction approximative dit ceci, Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni d'alliés, ni de souteneur. Le jour où ils seront entourés du feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. يقول رحمه الله ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته عذاب القبر ونعيمه فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قال نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال إذن كالدي رحمة الله عليه et se rattache aussi à la croyance au jour dernier. Tout ce qu'il y a après la mort fait partie de la croyance du jour dernier. Et il donne comme exemple les épreuves de la tombe. Il s'agit de l'interrogation du mort après son enterrement. Il sera interrogé sur son Seigneur, sur sa religion et sur son prophète. Allah subhanahu wa ta'ala affirmera le croyant par la parole ferme. Il répondra, mon Seigneur c'est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala égarera les injustes, les infidèles et les mécréants et les hypocrites. Les infidèles, les mécréants et les hypocrites diront, oh, 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 je ne sais pas. L'hypocrite et l'incrédule dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, je l'ai dit moi aussi. Le deuxième point, c'est les supplices et les délices de la tombe, on doit y croire. Les supplices de la tombe sont destinés aux injustes parmi les hypocrites, les infidèles. Et les infidèles, il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains en disant « Laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous dites tourner orgueilleusement de ses enseignements. » Et dans l'autre verset concernant Pharaon et les disciples de Pharaon, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer Al-Pharaon au plus dur des châtiments. Il dit, rahmatullah alayh, dans l'authentique de Muslim, selon Thabit ibn Zayd, le prophète a dit, si ce n'est la crainte que vous ne vous enterriez pas, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse écouter du supplice de la tombe ce que j'entends. Puis, il a dirigé sa face vers nous et il a dit, alayhi salatu wassalam, implorez la protection d'Allah contre le supplice de l'enfer. Les compagnons dirent, nous implorons Allah, nous implorons la protection d'Allah contre le supplice de l'enfer. Et il dit, implorez Allah, implorez la protection d'Allah contre le supplice de la tombe. Les compagnons dirent, nous implorons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le supplice de la tombe. Il dit, implorez Allah contre les épreuves apparentes et cachées. Les compagnons diront, nous implorons Allah contre les épreuves apparentes et cachées. Et il dit, alayhi salatu wassalam, implorez la protection d'Allah contre la tentation du Dajjal. Les compagnons dirent, nous implorons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la tentation du Dajjal. واما نعيم يقول رحمه الله واما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر السورة وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره رواه أحمد وأبو داود والحديث في حديث طويل. Et il dit, rahmatullah alayh, quant aux délices de la tombe, ils sont destinés aux croyants véridiques. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, dans Surat Fussilat, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tient dans le droit chemin, les anges descendent sur eux, c'est-à-dire au moment de la mort. Les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Lorsque le souffle de la vie, et dans l'autre verset, il est dit, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un agonisant, et qu'à ce moment-là, vous regardez, et ne sont plus proches de lui que vous. Ils ne sont plus proches de lui que vous qui l'entouriez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, vous ne faites pas revenir cette âme. Vous ne faites pas revenir cette âme si vous êtes véridique. S'il fait partie du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce, un jardin de délices jusqu'à la fin du verset de Sourate Fussilat. Et d'après l'Azib, il a cité un hadith rapporté par l'imam Ahmed et par Abu Daoud, rahmatullah alayhim jami'an, hadith de l'Barra ibn Azib, un long hadith, et il a cité tout simplement une partie de ce hadith. où le prophète a dit à propos du croyant, lorsqu'il répond aux deux anges dans sa tombe, une voix se fera entendre du ciel. Mon soumis a dit vrai. Apprêtez-lui un lit du paradis. Habillez-le du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Une brise du souffle du paradis ainsi que son parfum lui parviennent. Et sa tombe lui sera élargie jusqu'à la limite de son champ visuel. يقول رحمه الله وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها الأولى الرغبة في فعل الطاعات الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لتواب ذلك اليوم الثانية الرهبة في فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم الثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا يرجوه من نعيم الآخرة وتوابها et la croyance il dit rahmatullah alayhi la croyance jour dernier a d'importants effets hein, parmi ces importants effets bénéfiques pour le croyant premièrement le désir et l'avidité d'accomplir les actes d'obéissance dans l'espoir de la récompense de ce jour-là. Deuxièmement, deuxième bénéfique, la peur d'accomplir les péchés et de les approuver par crainte du châtiment de ce jour-là. Le troisième, la consolation, il y a dans la foi, en le jour de l'au-delà, la consolation du croyant pour ce qu'il loupe dans ce bas monde. Hein, pour ce qu'il loupe comme délice dans ce bas monde, qu'il aura les récompenses dans le delà où il espère. ويقول رحمه الله وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل أما من الشرع فقد قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقد اتفقت جميع الكتب السماوية على عليه إيه رحمة الله عليه les infidèles certains infidèles ont nié et certains et les mécréants ont nié la résurrection après la mort prétendant que cela n'est pas possible. Cette allégation est fausse et sa fausseté est prouvée par la législation et par le concret et par la raison. Concernant la législation, il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, les mécréants prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis-leur à Muhammad, si par mon Seigneur vous allez être ressuscités, et vous allez être informés sur tout ce que vous avez fait. Et cela est très facile pour Allah. Et tous les livres, il dit rahmatullah alayh, tous les livres célestes s'accordent sur cette question. Hein? Wa yaqulu rahimahullah wa amma al-hissu faqad ara Allah 'ibadahu ihya' al-mauta fi hadhihi ad-dunya. وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك وهي المثال الأول قول موسى حين قال له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون والمثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله وفي ذلك يقول الله تعالى وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ والمثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والمثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله تعالى 100 سنة ثم أحياه، وفي ذلك يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والمثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى وقد سبق الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آية عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله. Il dit رحمة الله عليه quant au concret qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite les morts, quant au niveau du concret, Allah a fait voir à ses serviteurs la résurrection des morts dans ce bas monde. Dans Sourate Al-Baqara, il y a 5 exemples. Le premier exemple, le peuple de Moussa, lorsque ils ont dit à Moussa, nous ne croirons pas qu'après avoir vu Allah, Allah les a fait mourir, puis les a ressuscités. Le verset nous dit, dans la traduction approximative du sens de ce verset, qui s'adresse à Banu Israël, et rappelez-vous, lorsque vous dites, ô Moussa, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah, alors la foudre vous a saisi, tandis que vous regardez, puis nous vous avons ressuscité après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, il dit, rahmatullah alayh, toujours dans Surat al-Baqara, dans le récit de la victime d'un meurtre, au sujet de laquelle Banu Israël se disputèrent. Allah leur ordonna d'immoler une vache et de frapper le mort avec une de ses parties, avec une partie de la vache, afin qu'il leur annonce celui qui l'a tué. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Et quand vous avez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah a démasqué ce que vous dissimuliez, et nous dîmes donc, frappez le tué avec une partie de la vache, ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. » Et dans le récit de ceux qui sont sortis de chez eux, de leur demeure par milliers, fuyant la mort, Allah les a fait mourir, puis leur redonna la vie. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens de ce verset, « N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur demeure par peur de la mort ? Ils étaient des milliers, puis Allah leur dit « Mourrez ». Après, il les rendit à la vie. Allah comble les gens de sa grâce, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et le quatrième exemple, dans le récit de celui qui passa auprès d'un village, un village désert, complètement désert, en ruine, et considéra comme improbable qu'Allah lui redonne la vie un jour. Allah fit mourir cet homme 1 siècle, 100 ans, puis lui redonna la vie. Et il est dit dans le verset dans Surat al-Baqara, dans la traduction approximative, nous dit ceci, ou comme celui qui passait par un village désert en ruine, il dit, comment Allah va-t-il redonner vie à celui-ci après sa mort? Allah le fait mourir pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? L'homme dit, je suis resté un jour ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Regarde ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens. Et regarde ces ossements, c'est-à-dire les ossements de l'âne. Comme nous les assemblerons et les revêtrons de chair. Et devant l'évidence, il dit, l'homme devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Le cinquième exemple dans Surat al-Baqarah aussi, dans le récit de Ibrahim, alayhi salatu salam, lorsqu'il demanda à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts, Allah lui ordonna d'égorger 4 oiseaux, de les découper en morceaux et de les mélanger, de mélanger ces parties des oiseaux pour les disséminer sur les montagnes se trouvant autour de lui, puis de les appeler pour que les parties se rassemblent et se reconstituent pour venir auprès d'Ibrahim, alayhi salatu salam, en toute vitesse. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, et quand Ibrahim dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah lui dit, ne crois-tu pas encore? Il dit, Ibrahim dit, si, pour que mon cœur soit apaisé. Allah lui dit, prends 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les et dissime-les dissime les fragments sur les montagnes, ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et fait les choses à la perfection, subhanahu wa ta'ala. يقول رحمه الله وأما دلالة العقل فمن وجهين أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال عز وجل آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الأمر الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات قال الله تعالى ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسخات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج et concernant il dit rahmatullah alayhi concernant les preuves de la raison il y a 2 sortes de preuves il dit la première sorte c'est qu'Allah est le créateur des cieux de la terre et de tout ce qui s'y trouve c'est lui qui les a créés sans avoir de modèle au préalable or celui qui a réalisé la création une première fois n'est pas incapable de la refaire. Et il a cité le verset dans la traduction approximative, nous dit ceci. Et c'est lui qui a commencé la création, et puis il la refera, et cela est facile pour lui. C'est-à-dire pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset dans la traduction approximative, nous dit ceci. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, et c'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Et subhanahu wa ta'ala a ordonné de réfuter ceux qui nient la résurrection. Il a ordonné de réfuter ceux qui nient la résurrection des ossements une fois réduits en poussière. Et il est dit dans le verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, dans cette traduction, approximative du sens du verset, dis-leur, dis, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie et il connaît parfaitement toute créature. Et le deuxième point, hein, qui prouve la résurrection, il est dit dans le verset, il est dit dans ce qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, le deuxième point, nous avons souvent l'occasion de voir une terre morte et desséchée, déserte, sur laquelle ne subsiste plus aucun arbre, aucune végétation. Puis soudain, il reçoit la pluie, se gonfle et fait pousser des plantes vertes et toutes sortes de splendides végétaux. Celui qui est capable de leur donner ainsi la vie après leur mort, et qui a donné la vie ainsi à cette terre après la mort, est aussi capable de ressusciter les morts. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, parmi ces signes, tu vois la terre nue, sec, puis aussitôt qu'Allah descend sur elle l'eau, il se soulève, augmente de volume. Celui qui l'a fait revivre, certes, fera revivre les morts, car il est omnipotent, subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, « Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins, et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs. Et par l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. » Yaqulu rahimahullah, وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع فلو قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه في الفقرة الماضية مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وذكر الحديث وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول وفي رواية من بوله وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. Et donc, il dit, rahmatullah alayh, des gens de la déviance et des gens qui se sont égarés ont nié aussi les supplices de la tombe et ses délices, prétendant que cela n'est pas possible, car il est contraire à la réalité. Ils ont dit, si on ouvrait la tombe du mort, on la trouverait intacte, sans que la tombe soit élargie ou rétrécie. Il dit, cette allégation est fausse et réfutée par la législation, par les sens et par la raison humaine. Il dit, concernant la législation, nous avons déjà cité les textes prouvant les supplices de la tombe et ses délices dans les sujets concernant la croyance au jour dernier. Il dit, il cite un hadith chez l'imam Bukhari, hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui dit que le prophète alayhi sallam est passé à côté d'un oncle entouré de murs à Médine. Et il a entendu deux hommes qui subissent les supplices dans leur tombe. Et le prophète a dit alayhi sallatu wassalam, l'un des deux ne se préservait pas de l'urine. Et dans une version, il se préservait pas de son urine. Et l'autre colportait d'immédisance. يقول رحمه الله وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه وربما يستيقظ أحيانا مما رأى ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى وفاة. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Il dit concernant la preuve par le concret, par les sens, il dit: le dormeur voit dans son songe qu'il se trouve dans un endroit sinistre où il souffre. Il arrive même parfois que ce qu'il voit le réveille. Malgré cela, il se trouve tout simplement dans sa chambre, intact, sur son lit, sous sa couverture. Il dit: or le sommeil, c'est le frère de la mort. Allah l'a nommé wafat, mort, c'est-à-dire, le wafat veut dire la mort. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles pour lesquelles il a décrété la mort et il renvoie les autres à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Il dit, rahimahullah, amma al-aql, fa'inna al-na'im fi manamihi yara al-ru'ya al-haq, al-mutabiqa lil-waqi'. Wa rubbama ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala sifatihi. ومن رآه على صفته فقد رآه حقا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رآه. فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا، أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه منها: الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفأن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. أما الأمر الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه كان في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. الأمر الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هو محجوب عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول رحمه الله: وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوه. Il dit, rahmatullah alayh, en ce qui concerne les preuves de la raison, hein, il dit, le dormeur dans son sommeil fait souvent des rêves véridiques, conformes à la réalité. Il se peut même qu'il voit le prophète tel que les compagnons l'ont décrit. Et quiconque le voit dans l'aspect et la forme qu'ont décrit les compagnons, il l'a réellement vu, alayhi salatu wassalam. Il dit malgré cela, le dormeur se trouve dans sa chambre et sur son lit, loin de ce qu'il voit. Il dit si ceci est possible dans les situations de ce bas monde, pourquoi ça ne serait pas possible dans l'au-delà et dans l'invisible? Il dit, quant au fait de se baser, comme le prétendent ces gens, sur le fait que si l'on ouvre la tombe, on trouve le mort intact, et la tombe ne sera ni rétrécie, ni élargie, il dit, en réponse à cela, la réponse et la réplique à ces ambiguïtés se fait par plusieurs points. Il dit le premier point, il n'est pas permis de s'opposer à ce qui est dans la législation d'Allah avec ce genre de présomption vaine. D'autant plus que si celui qui met ses arguments en avant méditait convenablement ce qui est stipulé dans la législation, il découvrirait la fausseté de ses présomptions et de ses ambiguïtés. Et il a cité la parole d'un poème qui avait dit « Ils sont nombreux les détracteurs d'une parole vraie alors que le hic est dans leur compréhension stérile. » Et il dit le deuxième point, « Ce qui se passe après la mort fait partie des choses de l'invisible, que nos sens et nos raisons ne perçoivent pas. C'est cela a été perçu par les sens, la croyance à l'invisible n'aurait plus d'intérêt. Et ceux qui croient à l'invisible seraient égaux à ceux qui nient l'invisible à ce niveau-là. Hein? Il n'y aurait aucun intérêt au fait de croire en l'invisible dans ces cas-là. C'est l'invisibilité palpable, était un peu le quelque chose de concret qu'on touche, etc. et qu'on voit. Il dit le troisième point, les supplices et les délices, l'élargissement de la tombe et son rétrécissement ne sont perçus que par le mort. En dehors de toute personne, il n'y a que le mort qui sent tout ça. Cela de la même façon que le dormeur voit dans son rêve qu'il est dans un endroit rétréci, sordide, ou dans un endroit vaste et splendide, alors que les yeux de ceux qui sont autour de lui, son état n'a pas changé. Il se trouve dans sa chambre, sur son lit et sur sa couverture. Le prophète, alayhi salatu wassalam, recevait la révélation pendant qu'il se trouvait parmi ses compagnons. Le prophète entendait, alayhi salatu wassalam, la révélation, tandis que le compagnon ne voyait pas l'ange et n'entendait pas ce qu'il disait. Et des fois l'ange arrive dans une forme humaine, il n'entend même pas ce qu'il lui dit. Le quatrième point, la perception des créatures illimitées. Ils ne perçoivent que ce qu'Allah leur a permis de percevoir. Et il ne leur est pas possible de percevoir tout ce qui existe. C'est impossible. Il dit, Ravidallah, les sept cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent font tous les louanges à Allah et glorifient tous Allah. Glorifient tous leur Seigneur de manière réelle. Et des fois, Allah fait entendre leur glorification à certains de ses créatures. Selon sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Mais ces louanges sont voilées pour nous. On ne les entend pas, on ne les comprend pas. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Glorifie Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'existe rien qui ne le glorifie pas. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Il dit, Habidallahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, wa skanahu fasiha jinnati. Il en est de même des diables et des shayatin et des jinns qui parcourent la terre, viennent et vont et viennent, sur terre. Les jinns sont venus auprès du messager d'Allah, ils ont écouté attentivement sa lecture du Coran, puis ils sont retournés dans leur peuple pour les avertir. Cependant, on les voit pas. Et il est dit dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Ô enfant d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos parents, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur partie intime. Il vous voit lui, et c'est similaire, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables à ceux qui ne croient point. » Il dit, rahmatullah alayh, donc si les créatures ne perçoivent pas tout ce qui existe, il ne leur est pas permis de nier les choses de l'invisible qui sont prouvées par la révélation, hein, qu'eux ne peuvent pas percevoir, et tout cela est prouvé par la révélation, par la raison et par le concret aussi. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie le firdaus al-ala, Cheikh al-Uthaymeen rahmatullah alayh, pour cet héritage qu'il nous a légué et qu'il a légué à la communauté. Méditez comment il est arrivé à bout de ses ambiguïtés, à bout des ambiguïtés des déviants au sujet de la croyance en le dernier jour. D'où tu vois l'importance de la science bénéfique, l'importance de la science du livre et de la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Médite, hein, en tous les cas, c'est l'être humain croit en le jour dernier d'une croyance authentique, sa situation sera meilleure, il sera dans la droiture, il ne déviera pas par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans ce bas monde ni dans le delà. Car il a la certitude qu'il va rendre ses comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a fait. Car sa foi lui procure la maîtrise de son nefs. Et l'être humain, quand il est insouciant, il ne se rappelle pas qu'il va rendre les comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ben il agit n'importe comment. Il fait n'importe quoi. Et il dit n'importe quoi. Donc si l'être humain ne se soucie pas de la résurrection, des comptes, de la récompense, du châtiment, il fait n'importe quoi. Il oublie le châtiment. Mais s'il se présente, hein, dans son esprit, il se rappelle la résurrection, les comptes, le châtiment, hein, et les récompenses, et qu'il va se retrouver de vous, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ceci aura un grand impact sur lui. Et l'orientera vers la droiture. Et lui donnera une bonne conception de la situation. Il sera juste dans ses paroles et dans ses actes. Il agira conformément au livre et à la sunna selon la voie et la compréhension, hein, des pieux prédécesseurs d'Allah, parce qu'il espère en les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un point qui est très important. Car les lacunes et les défaillances que nous voyons dans notre vie, dans nos sociétés, dans le monde, la cause est tout simplement le manquement dans l'accomplissement des piliers de la foi, que ce soit au niveau de la seigneurie, ou que ce soit au niveau de l'adoration, ou que ce soit au niveau des noms et des attributs d'Allah. Et ces catastrophes que nous subissons par moments, les tremblements de terre, les inondations, les maladies qui tuent, hein, et devant lesquelles l'être humain est incapable de faire quoi que ce soit, il y diminue, il ne sait plus où tourner sa tête, qu'est-ce qu'il faut faire. La cause, tout simplement, la défectuosité de la foi de beaucoup d'humains sur terre. Hein? Donc la défectuosité et les problèmes, les lacunes dans la foi chez les humains provoque l'apparition de graves maladies. Les inondations, les tempêtes, toutes ces maladies que tu vois, hein, les trompes, etc. Et médite la situation de ces gens dans ce milieu qui se disent cartésiens, qui se disent laïcs, hein, qui soi-disant ne croient en rien.
dans certaines régions du sud de ce pays, dans une région où il y a la culture de divine, il y a un fleuve qui passe. Au mois de septembre, on fait passer avec un protocole dans un bateau le saint patron soi-disant du cultivateur qui est Saint Vincent, il l'appelle ainsi. Pour le passer d'une région à une autre, il y passe un laps de temps pour qu'il y ait la fécondité et que la terre soit fertile, etc. Hada, regarde, chez ceux qui se disent qu'ils ne croient en rien, regarde, c'est débilité. Où est-ce qu'il amène? Donc les associateurs, les laïcs, les athées, ne donnent pas d'importance à cette voie droite, la voie de la foi et la voie de la soumission. Et parmi les musulmans, certains n'accomplissent pas ce qu'ils doivent accomplir au niveau de leur foi. Et ils ont des lacunes dans leur foi. Que ce soit sur le destin ou sur le delà. Et ce grand... la foi, c'est quelque chose de très important. Tous ces piliers sont importants. Et parmi les piliers importants, il y a le fait de croire en l'au-delà, en ce qui va se passer dans l'au-delà, etc. Et quand on a des lacunes, cela cause des perturbations. Au niveau des individus, au niveau des sociétés, et tu n'as qu'à voir la désobéissance et l'injustice qu'il y a sur terre. Regarde un petit virus qu'il a fait. Tout le monde est en panique à travers le monde. Et parmi les points qui sont inclus dans la foi, ou le jour dernier, comme l'a c'est très bien détaillé Cheikh Rahmatullah Alayh, les supplices et les délices de la tombe, lui, cela fait partie de l'invisible, qui n'est pas géré par les lois de ce bas monde. Il est géré par des lois qui nous dépassent à nous. Quand la personne meurt, dit sa mort, dit qu'il est dans sa tombe, et jusqu'à la résurrection, il est dans un autre monde, qui est le monde de intermédiaire, qui est le Barzakh, qui est un monde intermédiaire entre le delà et ce bas monde. Ce monde est soumis à des lois spécifiques. Il n'est pas concerné par les lois qui gèrent ce bas monde visible. Et donc, on doit pas s'y immiscer, ni immiscer notre raison dans ce qui se passe dans le Barzakh. Et ne pas s'occuper de cela. On accepte les textes qui sont venus minallah et de son prophète alayhi salam, et nous devons nous arrêter là. S'arrêter là où la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a arrêtés, parce qu'il y a des lignes rouges que nous ne devons pas franchir en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un témoin en nous-mêmes. Tous ne sont passés par la vie du fœtus dans le ventre de nos mères jusqu'à ce qu'Allah a décrété notre sortie dans ce bas monde. La vie des fœtus obéit à des lois spécifiques. La nourriture ainsi que l'évacuation et la respiration, tout se passe par le cordon ombilical qui est lié directement au placenta dans la matrice. L'être dans la matrice, il est dans une position particulière qui ressemble à la forme de l'oreille. Il baigne dans le liquide amniotique et il y a une couche protectrice qui le protège, qui protège le fœtus. Et dans la matrice, donc il est dans trois couches. Et dans un lieu sombre, trois couches. Et tout cela pour le protéger. Quand il arrive quelque chose à la maman, à la femme enceinte, Allah fait que ce coussin créé par le liquide amortit le choc. Pour qu'il arrive rien au fœtus. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala décide la sortie du fœtus vers ce bas monde, à ce moment-là s'arrête la vie dans le ventre. Et tous nous sommes passés par là. Est-ce que
Quelqu'un de doué de raison dit qu'il se rappelle de cela, ou il se rappelle de quelque chose qui s'est passé dans la matrice de sa mère. Et est-ce que quelqu'un doué de raison va dire, moi, je peux vivre selon l'organisation de la vie dans les matrices? C'est impossible. Jamais de la vie. Ben, il en est de même pour le barzakh et tout ce qui se passe dans la tombe, les délices de la tombe et les supplices de la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la science bénéfique et qu'Allah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى نفقهنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا وإلى الغد إن شاء الله.